plateforme nationale Info AMIE, information sur les mineurs isolés étrangers. Cette plateforme nationale réunit les différents acteurs de la prise en charge des mineurs isolés étrangers, à la fois les conseils départementaux, les ministères concernés, des associations et des personnes physiques. Le but d'Infomi, c'est vraiment travailler sur la mise en réseau des acteurs de la prise en charge et de l'accompagnement des mineurs isolés étrangers et diffuser en fait le droit applicable à ces mineurs. Donc on est souvent connu via notre site internet, mais on ne fait pas que ça. Et derrière, il y a aussi le rôle d'observatoire et le rôle de mise en lien des acteurs qui travaillent avec les MIE. Sur les mineurs isolés étrangers, effectivement, on parlait en début de mineurs isolés étrangers, mineurs non accompagnés. Alors, Infomi, on ne va pas rentrer vraiment dans le débat sur cette nomenclature, même si le vocable est toujours important. Le vocable mineur non accompagné, en fait, a aucune aujourd'hui base légale. C'est-à-dire que c'est Monsieur le garde des Sceaux, à sa prise de fonction, qui a décidé de changer l'appellation des mineurs isolés étrangers pour parler de mineurs non accompagnés. Certains pays européens et dans le droit européen, on voit cette appellation-là. Si on regarde les textes de droit français, on parle de mineurs privés temporairement ou définitivement des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ce qui fait un acronyme assez long si on essaye de le transposer. Ou alors les juges parlent encore et toujours de mineurs isolés étrangers. Donc nous, on restera sur ce vocable-là. Pour l'instant, à Infomi. Et pourquoi ? Parce que dans mineurs isolés étrangers, il y a la notion d'isolement qu'on perd avec la nomenclature non accompagnée. Et qu'est-ce qu'on entend par isolement ? C'est le fait d'être séparé à l'instant T des titulaires de l'autorité parentale. Donc c'est un isolement juridique. Et du fait de leur isolement, du fait de leur minorité, ces enfants ne vont pas être des migrants comme les majeurs, ne doivent pas être traités comme des migrants, mais comme des enfants en danger sur le territoire français. Et donc, à ce titre, relève de l'aide sociale à l'enfance et donc de la compétence des conseils départementaux. Et je réinsiste là-dessus avant d'aborder la question du démantèlement, parce qu'à Calais, on a vu alors effectivement, en 2016, on a vu la question des mineurs isolés étrangers très médiatisée, mais médiatisée sous l'angle de la réunification familiale, comme pour d'autres migrants, c'est-à-dire qu'on pensait à eux, on pensait à certains des mineurs isolés étrangers qui étaient présents dans le camp de Calais, sous l'angle, ils ont de la famille en Angleterre, donc on pense, tac, réunification familiale, Dublin, etc. Et on a oublié de les considérer comme des mineurs, et des mineurs en danger. Et des mineurs en danger plus dans le camp de Calais quand on connaît les conditions de vie. Ce qui a impacté un peu tout le déroulement après, des événements, du démantèlement jusqu'à la mise en place des CAOMI. Les mineurs isolés étrangers, au niveau de Calais, relevaient donc de la compétence du conseil départemental du Pas-de-Calais, donc du 62. Dans chaque département, pour les mineurs isolés étrangers, on a un dispositif qui est mis en place par l'aide sociale à l'enfance pour accueillir... Pour les mineurs isolés étrangers, dans chaque département, il y a des dispositifs qui sont mis en place, qui sont déjà des petites entorses à la loi, à la protection de l'enfance, où on va vérifier la minorité du jeune et l'isolement. Dans le Pas-de-Calais, il faut savoir que la structure qui est en charge d'accueillir les mineurs isolés étrangers ne se trouve pas à Calais, mais se trouve à Saint-Omer, ce qui fait une petite distance entre le camp de Calais et la structure. Et ça a aussi impacté la réflexion des acteurs sur place, puisque les mineurs isolés étrangers qui étaient au sein du camp de Calais, très vite, ne voulaient pas partir de Calais, puisqu'ils voulaient continuer à tenter le passage. Et donc Saint-Omer, c'était beaucoup trop loin. Alors, pourquoi a été mis en place ce système à Saint-Omer ? C'était pour l'idée dans ce dispositif, c'était de sortir les mineurs du camp et de les éloigner des réseaux de passeurs. Alors, l'idée était louable, mais dans les faits, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les mineurs ne voulaient absolument pas aller à Saint-Omer. Et quand ils y allaient éventuellement, c'était le week-end, quand il n'y avait plus de passage, quand c'était plus possible de tester le passage, se reposer, puis ils repartaient après sur le camp de Calais. Ce qui fait que dans la tête des acteurs sur place, dans le camp, il y a eu très vite un phénomène d'acclimatation, avoir des mineurs isolés dans le camp de Calais. Et puis, on travaillait avec eux leur histoire, mais on travaillait uniquement sur la question de la réunification familiale. À aucun moment, l'autorité judiciaire a été saisie, sauf pour les mineurs qui avaient fait l'objet de violences. Donc, on était 2016, la médiatisation commence au niveau des mineurs isolés étrangers. Un premier recensement est fait, puisque un référé est porté devant le tribunal administratif de Lille. Un premier recensement des mineurs isolés étrangers est réalisé au sein du camp de Calais. Je ne parle absolument pas pour l'instant des autres camps. Début 2016, on dénombre environ 600 mineurs isolés, ceux qui sont repérés par la maraude. La maraude qui est quand même qui est faite en 2-3 jours, c'est assez succinct, donc potentiellement il y en a plus. Quand on arrive à l'été 2016, un deuxième dénombrement est fait des mineurs isolés étrangers, et là on en dénombre 1600. Ce qui fait qu'on est quand même passé d'un gap à l'autre. Il faut savoir que sur Calais, sur les mineurs isolés étrangers, on avait des jeunes. C'est-à-dire que les acteurs associatifs avaient connaissance de mineurs de l'âge de 8 à 10 ans, avec après toute une palette d'âge. Donc on arrive à l'été, effectivement, on commence à entendre, on commence à voir des initiatives. Les associations demandent un dispositif sur place, à Calais, pour mettre à l'abri les jeunes. Qui en ferait la demande. Alors, la solution trouvée au début, c'est d'en mettre certains au niveau du centre d'accueil provisoire. C'est des espèces de containers que vous avez peut-être vu en photo. Ou dans ce CAP, ce qu'on appelle le CAP, le centre d'accueil provisoire, on a des adultes et des mineurs qui seront jusqu'au démantèlement mélangés. La vie active qui gère le CAP essaye de séparer les mineurs des majeurs. C'est pas très aisé. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner dans la réalité. Donc on a environ 150 mineurs qui sont mis à l'abri au niveau du CAP et à peu près 1300 adultes au sein du CAP. Et puis, effectivement, comme le rappelait Philippe, on va mettre en place, au lieu de mettre à l'abri ses enfants dans le droit commun, c'est-à-dire dans le système de protection de l'enfance, de saisir l'autorité judiciaire si besoin, et éventuellement de les amener vers la scolarisation dans le droit commun, on va mettre des solutions un peu des palliatifs. Donc, on va faire venir deux professeurs des écoles au sein du CAP pour gérer la question de la scolarisation de ces mineurs. Au sein du CAP, à l'époque, il y a 150 gamins. Deux enseignants, 150 gamins... Ça pose question. Arrive la rentrée de septembre, donc on est effectivement sur de la négociation entre acteurs associatifs et État pour la mise en place d'un système de mise à l'abri, de répit. Alors là, on ne parle plus de protection de l'enfance, on parle d'un système pour permettre aux jeunes d'arriver vers le système de protection de l'enfance. C'est très rare d'entendre cette question de démarche d'adhésion pour des mineurs isolés étrangers. Hein. La plupart du temps, on est sur du contentieux, de la minorité, éventuellement de l'isolement. Là, on demande une adhésion aux jeunes pour leur permettre d'accéder à la protection de l'enfance. Donc, on est en septembre. On discute effectivement avec les ministères, les associations, pour savoir comment va se mettre en place le site de mise à l'abri des mineurs, qui ne sera pas dans le cadre de la protection de l'enfance, donc pas dans le cadre de droit commun. Et puis, progressivement, on arrive effectivement aux effets d'annonce du démantèlement. Et là, se pose la question des mineurs isolés, parce que lors du premier démantèlement partiel, les associations avaient mis en garde, les associations calaisiennes avaient mis en garde les ministères, c'est-à-dire que les mineurs isolés étaient les premières victimes des démantèlements. C'est ceux qu'on perdait le plus vite. Les associations avaient déjà alerté lors du premier démantèlement, donc pour le deuxième, la requête, c'était « Ok, on les met tous à l'abri et ensuite les opérations commencent ». Alors ça, c'était effectivement sur le papier ou lors des discussions qu'on a pu avoir. Les premiers copiles qui ont concerné le démantèlement commencent avant les vacances d'été et puis commencent à s'intensifier à partir de fin septembre. Le 20 octobre, donc le démantèlement, c'est du 24 au 27 officiellement, octobre. Le 20 octobre, on n'a encore aucune information sur comment vont être mis à l'abri les mineurs isolés avant les opérations de démantèlement. Et surtout, comment va se jouer le chassé-croisé entre les mineurs qui sont au sein du CAP et les autres? Parce que du coup, on a des mineurs qui sont dans le camp de Calais et des mineurs qui sont dans les espèces de containers. Le 21, donc le dimanche, il me semble que c'est un dimanche, enfin, à partir du 21 octobre, on commence à avoir l'information que l'objectif, c'est de mettre les mineurs isolés étrangers de Calais à l'abri au sein du CAP. Donc tous les mineurs isolés, les 1500, les mettent au sein du CAP. Et donc... commencer les opérations de démantèlement. Ça, c'est l'information qu'on a au début. Le dimanche soir, donc la veille de lundi, là, on explique qu'effectivement, on mettra les mineurs au sein du CAP, mais il va y avoir une espèce de tri pour identifier, parce qu'il va falloir faire sortir tout le monde du CAP et puis faire re-rentrer les gens. Donc, pour éviter de se tromper... on va mettre en place, donc, au niveau du fameux hangar, un système de tri devant le hangar et puis à l'intérieur pour les mineurs. Puisque les mineurs isolés étrangers de Calais sont connus pour vouloir aller en Grande-Bretagne. Et donc, du coup, l'objectif de l'État français, après moult discussions avec les Britanniques, c'est de permettre aux autorités britanniques de faire une première sélection, d'étudier les demandes des mineurs pour après donner l'accord ou non pour ceux qui ont de la famille en Grande-Bretagne. Donc tout ça est un peu flou. Le dimanche, les associations apprennent que va se mettre en place ce dispositif. Et puis parallèlement, on a des discussions au niveau national sur des CAO. Alors on prononce pas à ce moment-là, on est au niveau du 24 octobre. Le mot CAOMI n'apparaît pas. On parle de centre d'accueil pour les mineurs. On sait qu'on regarde un peu les différents documents qui arrivent. Ça se calque un peu avec ce qui est en train de se passer au niveau des majeurs. Donc on voit la charte des CAO sortir. On voit des documents sortir un peu de cahiers des charges qui ressemblent un petit peu aux CAO majeurs, mais qui seraient pour des mineurs. Mais au début, on n'en parle pas. Donc rien n'est fixé au 24 octobre. On commence le 24 octobre, le démantèlement. Donc là, vous avez le hangar, vous avez des files. Et alors, les files sont très mal expliquées aux migrants, puisque très vite, la file dite mineure va être comprise comme la file pour aller en Angleterre. Donc finalement, en fait, dans les faits, beaucoup de gens vont se présenter au niveau de cette file. Ce qui fait qu'il va y avoir les premiers tris, que a démontré le défenseur des droits dans son rapport de décembre 2016. Il va y avoir des tris sur le physique. Où on va dire, toi, t'es mineur, toi, t'es pas mineur. Donc, les personnes qui sont considérées à ce moment-là comme relevant des files majeures sont réorientées, sans forcément beaucoup d'explications, vers les files majeures. Et là commence le marathon pour les mineurs isolés, puisqu'ils rentrent dans le hangar. Et là, on a un premier entretien avec des officiers du Home Office, donc des officiers britanniques, des officiels français. Alors là, les binômes, c'est soit britannique OFPRA, soit britannique FTDA, ou un premier entretien dit flash, je reprends la nomenclature qu'utilisait le défenseur des droits dans son rapport, c'est on va vérifier la personne qu'on a en face de nous, donc on lui pose quelques questions, et puis si on a un doute sur sa minorité, on lui fait passer un deuxième entretien. Donc toujours avec des officiels du Home Office et puis un binôme qui varie, OFPRA, France Terre d'Asile. Et puis là, soit on considère qu'il est mineur et donc on le mettra à l'abri au sein du CAP, soit on considère qu'il est majeur et donc il va être orienté vers les files CAO majeur. Ce qui fait qu'on aura beaucoup de mineurs isolés étrangers qui vont se retrouver en CAO majeur. Donc une fois qu'on a passé ça, on est lundi, le démantèlement a commencé. Et puis en fait, on se rend compte très vite qu'il y a beaucoup de monde dans cette file de mineurs. Donc la file est fermée à 15h. Et évidemment, on n'a pas mis à l'abri les 1500 mineurs. Donc on a des mineurs qui dorment dans les restes du camp lundi soir. Et rebelote mardi, ça se passe exactement de la même façon. Mercredi également. Mercredi est annoncée la fin des opérations du démantèlement, sauf qu'on a encore des mineurs isolés qui sont dehors et des mineurs isolés qui avaient été repérés par les associations calaisiennes. Entre-temps, au niveau national, le texte des CAOMI a commencé à faire son chemin. On a un cahier des charges. On nous explique que ces centres, donc de la même manière que pour les CAO, on est sur du dispositif dérogatoire. Le 27 octobre, on n'a pas encore de base légale pour ces CAOMI. On est simplement sur l'État qui nous précise que, vu les circonstances exceptionnelles, on va mettre en place ces centres qui seront répartis dans tout le territoire national. Des membres d'Infomi qui sont par ailleurs des MECS ou des foyers d'enfance sont contactés pour accueillir éventuellement des jeunes ou mettre à disposition des équipes. Mais pour le moment, rien n'est fixé. On est le 27. Et puis en même temps, donc on a les 1500 mineurs qui sont au niveau du CAP. Et en même temps, on en a 200 qui restent dehors. Et donc là, branle-bas de combat, parmi les 200, il y a des mineurs isolés qui étaient suivis par les associations. Et donc les premiers bus vont commencer à partir pour des CAOMI qui vont être en fait créés un peu en direct live. Et donc les deux premiers bus qui commencent à partir, c'est pour les CAOMI de Sion, donc près de Nancy, et Fouras, en Charente-Maritime. Là, ils vont trouver quelques places, donc c'est pas énorme. Les gamins ne comprennent pas ce qui se passe puisqu'on leur explique pas. À l'arrivée, il y a très peu d'équipes. C'est les gamins qui fugueront les premiers et de manière assez importante. La moitié des effectifs fuguera la première nuit et on nous le confirmera après. Les équipes des CAOMI nous le confirmeront. Alors pendant ce temps-là, on retourne à Calais. Donc ça, c'est Sion, S-I-O-N, à côté de Nancy. On retourne à Calais. On est le dernier jour, donc on est jeudi. Là, on nous annonce officiellement que des CAOMI vont être créés. On travaille. Le ministère du Logement nous explique qu'ils cherchent des lieux pour envoyer les jeunes. Avant le départ des jeunes, on les maintient au CAP, où le Home Office continue ses entretiens À ce moment-là, on ne saura pas ce qui se passe au sein du CAP puisque les associations ne pourront pas y rentrer. Seule l'association gestionnaire du CAP s'occupera des mineurs isolés étrangers. Il y aura deux incidents sécurité qui vont en fait pousser l'État à faire partir des bus encore un peu plus tôt, puisque l'idée c'était que l'examen par le Home Office des situations individuelles se fasse sur Calais et qu'ensuite on voit avec les mineurs isolés étrangers qui ne seraient pas acceptés par les Britanniques, on voit ensuite où les envoyer dans le territoire national. Des incidents sécurité vont conduire le gouvernement à faire partir les premiers bus le 2 novembre. Et on l'apprendra le 1er novembre. Là, on explique aux jeunes, on leur demande de coopérer, donc aux 1500 qui est resté au niveau du CAP, on leur demande de coopérer en leur disant « Vous allez être envoyés dans des centres dans toute la France où votre demande pour aller au Royaume-Uni sera étudiée. » Il faut savoir que dans les 1500 mineurs, il y a des jeunes qui ne veulent pas aller au Royaume-Uni. Mais là, on les a mis tous ensemble. Et donc, du coup, va naître, en fait, le système des CAOMI, des centres d'accueil et d'orientation pour mineurs isolés. Ils vont trouver, en fait, une base légale. Alors, base légale, on reviendra dessus, le 1er novembre. C'est-à-dire que ces CAOMI, ce n'est pas de la mise à l'abri administrative selon le Code de l'action sociale et des familles. Ce n'est pas de la mise à l'abri judiciaire via l'application de l'article 375 du Code civil. C'est une circulaire du 1er novembre 2016 que le garde des Sceaux prend à l'attention de l'autorité judiciaire, où il explique qu'en raison de ce dispositif spécifique et exceptionnel qu'est le démantèlement de Calais, fondé sur le pouvoir de police générale que l'État a, il va mettre en place des centres d'accueil et d'orientation pour mineurs isolés. Pour asseoir cette circulaire, il fait en fait référence à une décision du Conseil d'État qui date de juillet 2016 et qui a été adoptée par le Conseil d'État en appel concernant un référé qui portait sur l'affaire des Hauts-Lieux. On est encore dans le Nord. Je ne sais pas si vous avez pu voir dans la presse, dans le Nord, à Lille, il y avait un autre bidonville. Ce n'est pas Grande-Synthe, c'est encore autre chose. C'est à Lille même, il y a un jardin, dit jardin des Hauts-Lieux, où des mineurs isolés étrangers sont là, végètent. Dans cette affaire, les mineurs isolés étrangers du jardin des Hauts-Lieux sont évalués mineurs, ont fait l'objet par le juge des enfants d'une ordonnance de placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance du Nord. Mais le conseil départemental, donc qui est responsable d'exécuter cette OPP, ne le fait pas. Donc les jeunes vont devant le TA de Lille et font un référé pour que le juge administratif enjoigne le conseil départemental, la maire, le préfet, de prendre les mesures pour assurer, dans un premier temps, leurs besoins primaires avant d'exécuter l'ordonnance de placement provisoire. Le TA de Lille répond favorablement et dit « Ok, donc le conseil départemental doit exécuter l'OPP, mais un système d'injonction et un tarif journalier. Et si le conseil départemental ne respecte pas ça, c'est à l'État de prendre en charge les besoins primaires des jeunes, donc c'est-à-dire leur trouver un logement, les nourrir et commencer les questions de socialisation, en attendant que le conseil départemental exécute l'OPP. Donc ça, c'est l'affaire de Lille. Le conseil d'État, saisi en appel, va confirmer la jurisprudence du tribunal administratif de Lille et dira effectivement que l'État a un pouvoir de police générale et qu'il peut en faire usage, mais uniquement si le conseil départemental a démontré qu'il a mis tout en œuvre pour exécuter l'ordonnance de placement provisoire et il n'a pas pu. Et là, ce n'était pas du tout la situation des mineurs isolés à Calais. Aucun juge n'avait été saisi. Aucun juge des enfants n'a été saisi, aucun procureur de la République n'a été saisi. On était complètement en dehors de ça. Et pourtant, on a cette circulaire du 1er novembre qui vient nous dire, voilà, en vertu de ce pouvoir, je crée ces CAOMI. Donc ces CAOMI ne sont pas des structures de protection de l'enfance. Elles ne sont pas habilitées, elles ne doivent pas respecter les conditions de la protection de l'enfance qui sont fixées par le Code de l'action sociale des familles, les conditions d'encadrement, les conditions de matériel d'accueil de mineurs. Ils ne doivent pas du tout respecter cela. Les CAOMI n'ont pas de structure juridique, n'ont pas de statut juridique. Et ce qui va nous embêter par la suite, c'est que du coup, les CAOMI n'ayant pas de structure, de statut juridique, bah, les mineurs qui sont là-dedans non plus. Ils vont être suspendus entre une décision britannique, qui est également un dispositif dérogatoire par rapport au droit britannique, et puis l'aide sociale à l'enfance française, mais on n'est pas encore dedans. Donc ils seront suspendus dans cette zone grise. Au niveau de ces CAOMI, donc la circulaire parée le 1er novembre 2016, les jeunes commencent à être envoyés dans les CAOMI le 2 novembre. Et là, ce qu'on observe au sein d'Infomi, c'est que eh bien, l'État a eu du mal à trouver des structures, a eu du mal à trouver des personnels qualifiés. Et donc, les équipes qui vont être recrutées, bien souvent, sont des jeunes professionnels qui n'ont pas connaissance des questions de mineurs isolés étrangers, qui ont été recrutés parfois la veille ou le jour même pour une arrivée à 16 heures, qui ne savaient pas quel type de public ils allaient recevoir. Parfois, certains pensaient recevoir des majeurs, ils ont reçu des mineurs. D'autres pensaient recevoir des mineurs, finalement, ils ont reçu des majeurs. Ils ne savaient absolument pas ce qui s'était passé à Calais et ne comprenaient pas les informations qu'on avait données aux jeunes. Et les informations qu'on avait données aux jeunes, c'était simplement « Allez dans les Kaomi, si vous n'y allez pas, vous n'irez pas en Angleterre ». Donc très vite, y a quand les gamins arrivent, le 2 novembre pour les premiers, il y a une espèce de défiance vis-à-vis du personnel sur place. Et puis les équipes sont aussi mises en difficulté puisqu'on est dans un dispositif ad hoc. Donc en fait, elles n'ont aucune idée, donc elles nous appellent pour savoir quelle est la procédure applicable et nous-mêmes, on est absolument incapables de leur dire « il faut faire ça ». Puisqu'on ne sait pas quand le home office va arriver, on ne sait pas comment vont se passer les entretiens avec le home office, comment les décisions vont être notifiées aux gamins, quels recours ils pourront faire, puisqu'on est complètement sur du ad hoc. Et pourquoi c'est embêtant? C'est que comme on n'est pas en protection de l'enfance, on a des mineurs isolés étrangers qui vont de 12, 13 ans à 16, 17 ans, et on sait, pour les personnes qui travaillent avec les mineurs isolés étrangers, il y a le couperet des 18 ans en droit français. À 18 ans, ils vont devoir régulariser leur situation. Et pour les jeunes qui ont plus de 16 ans, souvent, la préfecture regarde deux choses. Prise en charge à l'aide sociale à l'enfance et scolarisation dans le droit commun. Donc plus on perd de temps, plus on met en danger ces jeunes. Ça, c'est pour la partie droit commun. Pour la partie droit français, pardon. Donc dérogatoire au niveau du droit français et dérogatoire au niveau du droit britannique. Au niveau du droit britannique, donc, ces jeunes qui voulaient aller en Angleterre avaient deux options. Soit j'ai de la famille au Royaume-Uni, et dans ces cas-là, je fais jouer le règlement Dublin III. Soit je n'ai pas de famille au Royaume-Uni, et là on rentre dans ce que vous avez peut-être entendu parler dans les médias, c'est l'amendement Dubs. L'amendement Dubs, c'est un amendement qui a été pris par la Chambre des Lords à l'Immigration Act des Britanniques, qui permet en gros pour le Royaume-Uni d'accueillir des mineurs isolés étrangers vulnérables, au Royaume-Uni, qui viendrait d'Europe. Alors, il n'est pas mentionné Calais. Le Home Office, donc le gouvernement britannique, va restreindre. Donc, cet amendement, au départ, est assez large. C'est « je vais accueillir des mineurs isolés étrangers vulnérables au Royaume-Uni ». Et puis, finalement, on a un guidance du Home Office qui sort et qui va restreindre ça, puisqu'on va demander, en fait, pour rentrer dans l'amendement Dubs, il faut être un enfant âgé de 12 ans maximum. Donc là, ça réduit un petit peu déjà les jeunes. Ou alors, être de nationalité syrienne et soudanaise et avoir moins de 15 ans. Ou alors, être âgé de 18 ans et remplir toutes ces conditions-là. Être âgé de 18 ans et avoir un frère ou une sœur qui remplit les conditions au-dessus. Donc avoir moins de 12 ans ou être soudanais et syrien, avoir moins de 15 ans. Donc on complexifie un peu et grosso modo, le résultat, c'est on prend les plus jeunes sous l'amendement Dubs. Et puis, on a donc le règlement Dublin III. Mais le règlement Dublin III, vous savez comme moi, pour le faire jouer, un mineur isolé étranger, classiquement en matière de droit commun, il doit déposer une demande d'asile en France et demander à ce que l'État qui examinera sa demande d'asile soit l'État britannique. Et là, il fait jouer l'article 8 du règlement III. Là, on n'est pas du tout là-dessus. Les 1500 mineurs qui sont envoyés... Les 1500 mineurs qui sont envoyés dans les Kaomi n'ont absolument pas déposé de demande d'asile. Et alors là, je dois conclure, et on me remercie d'avance, donc j'ai vite fait parler de la sortie des Kaomi. Là, on est en plein dedans, en fait, là, sur la sortie des Kaomi. Les premiers Kaomi ferment le 31, donc c'est-à-dire demain, et les prochains dans quelques semaines. On a eu une notification des décisions du Home Office qui a examiné un petit peu les demandes. Et alors quand je parlais de système dérogatoire aussi au niveau du droit britannique, c'est-à-dire que les décisions de refus du Home Office n'ont pas été notifiées par écrit, n'ont pas été données individuellement. On a eu des restitutions collectives par les services de préfecture français qui venaient expliquer à l'oral dans les Kaomi, vous qui restez ici, vous n'êtes pas pris. Et on a demandé aux équipes des Kaomi qui n'étaient juridiquement armés, de monter des recours contre ces décisions, donc des décisions qui ne sont pas motivées, puisqu'on avait des lignes. On vous a imprimé des petites synthèses de nos rapports, vous verrez dedans, il y a le tableau Excel, en fait, qui sert de décision. Ce que les Kaomi ont reçu... il n'est pas sur celui-là, donc moi, je vais montrer le mien. Les Kaomi ont reçu un espèce de tableur Excel avec la liste des noms des gamins. Et puis, voilà, ça ressemblait un peu à ça. Alors, de loin, vous ne verrez pas, mais je le ferai passer. Ça ressemblait à un tableau Excel où il y avait le nom des gamins, la date de naissance, l'adresse du Kaomi. Et puis, à la fin, on avait note accepted. Bon, bah là, c'est tous les refus. Hein, et les critères. Et les critères, ça tenait en quelques mots, c'est-à-dire tu es majeur. Ton lien de parenté, c'est un cousin, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a juste le mot cousin dessus. Le lien familial n'est pas accepté. Ou tu ne remplis pas les critères de l'amendement d'UPS. Pour constituer un recours là-dessus, c'est un petit peu compliqué. Déjà, quand on s'y connaît un peu en droit, mais alors quand on n'y connaît rien du tout, c'est un peu compliqué. Et en plus, je n'ai pas parlé du défaut d'interprétariat, c'est que dans toute cette histoire, il y a zéro interprète physique sur place dans les Kaomi. Et les Kaomi n'ont pas connaissance de l'interprétariat par téléphone. Donc on est sur des problèmes de communication et des problèmes de moyens pour les équipes pour aider les jeunes. Et je conclue simplement en disant que normalement, la bascule, là, suite à la fermeture des Kaomi, ça doit être, on les bascule dans le droit commun, donc système protection de l'enfance. Et ça veut dire évaluation, minorité et isolement des jeunes. Et ce qu'on commence à observer, parce que là, les évaluations sont en cours ou sont en train de se finir, les remontées qu'on a, alors évidemment, à Infomi, on va avoir que les remontées négatives, mais certains conseils départementaux, soit n'effectuent pas l'évaluation, c'est-à-dire que ne rencontrent pas le jeune, et restent sur le motif de refus du home office qui était la majorité. Donc le home office t'a déclaré majeur, donc tu es majeur, donc je te bascule en CAO majeur. Soit des conseils départementaux reçoivent les jeunes, mais les jeunes refusent de faire l'évaluation. Et là, on commence à voir se développer. Alors, on a entendu, je regarde ma collègue Irina qui pourra compléter après, on a entendu des équipes nous expliquer qu'on leur demande de faire des évaluations dégradées. Alors, moi, je ne connaissais pas ce mot-là. C'est-à-dire que les équipes des Kaomi vont faire un rapport sur ce qu'elles ont pu constater dans la vie des jeunes. Oh, il a l'air mature, voilà comment il se comporte avec les autres jeunes, etc. Et le conseil départemental jugera sur pièce. Donc, ne verra pas le jeune, mais jugera sur pièce. Voilà. Et je m'arrête là.